VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui que vous propose VOA Afrique. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce mercredi 21 mars 2018. Au micro, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
À la une ce matin, Anne.
En Centrafrique, 2 personnes tuées et 2 casques bleus blessés dans de nouveaux affrontements entre groupes armés.
Au Mali, report du déplacement du chef du gouvernement à Kidal.
Au Burkina Faso, reprise ce mercredi du procès du putsch manqué, la défense dénonce des irrégularités. Gros plan tout à l'heure dans la partie magazine.
Il y a même la dénomination du procès. Ça, c'est un aspect qui n'a pas définitivement été réglé.
Également dans l'actualité, le président américain dénonce ce qu'il qualifie des malades après les colis piégés au Texas.
À venir aussi, vos rendez-vous du matin, la Minute Éco et la page sport.
En République centrafricaine, au moins 2 personnes ont été tuées et 2 casques bleus, un Burundais et un Gabonais, légèrement blessés lundi soir dans des échanges de tirs entre 2 groupes armés à Alindao. Les morts sont 2 combattants de l'Unité pour la Centrafrique, l'UPC, un groupe armé puissant dans la région et issu de l'ex-Séléka musulmane. Les combattants de ce groupe ont échangé des tirs avec ceux des anti-Balaka, des groupes d'autodéfense se présentant comme chrétiens. Alindao est occupé par l'UPC ainsi que par des anti-Balaka situés dans une région diamantifère. La ville est proche de Bangassou où les activités humanitaires ont cessé depuis la semaine dernière en raison des violences perpétrées par les groupes armés.
En République démocratique du Congo, l'armée affirme avoir tué 4 assaillants responsables des massacres des civils en Ituri, dans le nord-est du pays, région en proie à des conflits meurtriers récurrents à caractère communautaire. Dans l'attaque d'une position de l'armée dans le village de l'Aledjo, les militaires congolais ont capturé un 5e assaillant. « Nous continuons à les pourchasser et pour l'instant, ils sont en débandade », a indiqué le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans cette région. L'armée a chassé ses assaillants des 3 villages qu'il contrôlait et d'où partaient des attaques.
Au Cameroun, un Tunisien a été tué après son enlèvement en zone anglophone. Premier étranger tué dans cette région en proie à des violences depuis plusieurs mois. L'ingénieur faisait partie de 4 personnes kidnappées le 15 mars dernier par ce que les autorités appellent des séparatistes armés. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Le porte-parole du gouvernement camerounais a annoncé la découverte du corps de Khaled Tinsa, ingénieur tunisien assassiné par ses ravisseurs. Sa dépouille a été découverte au cours de l'opération spéciale de libération de 4 otages menée par les forces de défense et de sécurité. Opération au cours de laquelle le 2e ingénieur tunisien a été libéré, ainsi que 2 techniciens camerounais, tous enlevés le 15 mars par des hommes armés sur la route Koumba-Isangene, à plus de 245 km de Yaoundé. Les otages, qui travaillent pour une société tunisienne, étaient retenus dans le département de la Mémé, région du sud-ouest du Cameroun. Après leur libération, les 3 survivants sont arrivés à Yaoundé à bord d'un hélicoptère de l'armée camerounaise. Les ravisseurs menaçaient d'exécuter tous les otages si une rançon ne leur avait pas été versé au plus tard ce mercredi. 5 membres du groupe des ravisseurs ont été neutralisés selon le gouvernement camerounais. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Au Mali, la tournée du Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga dans des localités du centre et du nord du pays, dont Kidal, a été reportée. La coordination des mouvements de la Zawad, la CMA, a refusé de le recevoir. Ce déplacement, qui devait démarrer lundi, aurait été une première depuis 2014, lorsque l'armée malienne avait subi une lourde défaite face aux rebelles lors d'une visite du chef du gouvernement de l'époque, Moussa Mara. Des détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Kidal est loin de Bamako, mais devient encore plus loin avec les conditions de la CMA, qui, à chaque visite d'un premier ministre, pose ses conditions. Oumar Tatamli avait renoncé à son voyage. Moussa Mara y est allé, avec des conséquences fatales pour les civils et militaires maliens. Soumaïlou Boubey Maïga veut se rendre dans la capitale des Ifugas. Le 19 mars dernier était la date indiquée. Elle a été reportée à une date ultérieure. Il semble aussi qu'il y a un déficit de communication entre la branche politique et militaire de la CMA. C'est pour cela que certains responsables des ex-rebelles sont en tournée dans la région de Kidal pour visiter leur base, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Gambie, arrestation d'une dizaine d'agents des services de renseignement pour le meurtre en 2016 de l'opposant Solo Sandeng sous le régime de Yahya Jammeh. Les suspects ont tous travaillé dans la défunte agence nationale de renseignement dont le chef Yakuba Badji est également jugé pour ce meurtre. Le point avec Eddie Sango.
Deux de ces agents ont été libérés sous caution et huit sont toujours en détention selon les porte-parole de la police. 13 témoins ont été entendus au procès de Yakuba Badji et ses huit coprévenus, très suivis à chacune de ses audiences, mais les procès a connu de nombreux retards et ajournements depuis son ouverture le 20 mars 2017. Les accusés doivent répondre des 25 chefs d'inculpation, dont ceux de meurtre et de torture. Solo Sandeng, un dirigeant du Parti démocrate uni, principal parti d'opposition à Yahya Jammeh, est décédé en détention. Il avait été arrêté le 14 avril 2016 avec plusieurs autres personnes après un rassemblement pour réclamer des réformes politiques.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007 a-t-elle profité de financements libyens ? L'ex-chef de l'État français se trouvait toujours en garde à vue hier soir dans le cadre de ce dossier sur lequel la justice enquête depuis 5 ans. L'ancien président était toujours entendu par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales à Nanterre. À l'issue de cette garde à vue, qui peut durer jusqu'à 48 heures, M. Sarkozy peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen ou convoquée ultérieurement.
En Syrie, au moins 35 personnes ont été tuées hier dans un tir de roquettes des rebelles qui a visé un marché dans la banlieue de Damas. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La roquette est tombée sur un marché près d'un point de contrôle de l'armée dans la banlieue de Damas. On a été pris de terreur avec la puissance de l'explosion, a affirmé Anya, infirmière et habitante de la localité. Dans un bandeau, la télévision d'État a accusé les rebelles d'avoir tiré cette roquette. L'agence officielle Sana a avancé un bilan de 35 morts. C'est l'attaque la plus meurtrière qu'a connue la capitale syrienne ces derniers mois. Apparemment, les rebelles ont réagi en représailles au bombardement intensif du régime sur la Ghouta orientale. L'armée syrienne poursuit depuis le 18 février son offensive contre la dernière enclave rebelle aux portes de Damas. Ces frappes ont tué plus de 1450 civils, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Le président américain Donald Trump a dénoncé hier ce qu'il appelle les auteurs malades de plusieurs attentats à la bombe au Texas ces dernières semaines, une série qui serait sans lien apparent avec le terrorisme selon la Maison-Blanche. Ces déclarations sont intervenues quelques heures après l'explosion, tôt hier, d'un colis qui a fait un blessé léger dans un centre de tri de Federal Express près de San Antonio. Jusque-là, les attaques aux colis piégés étaient cantonnées à Austin, la capitale du Texas. Explosions y ont fait 2 morts et 4 blessés depuis le début du mois et l'enquête a fait pour l'instant peu de progrès.
Pour la 4e fois en 4 mois, le Congrès américain se retrouve à quelques jours de déclencher une fermeture de l'État fédéral, faute d'argent en raison d'un bras de fer obstiné entre républicains et démocrates, mais aussi au sein même de la majorité. En février, les parlementaires se sont mis d'accord sur le montant total des dépenses pour la fin de l'année budgétaire 2018 jusqu'au 30 septembre et pour 2019, approuvant une hausse similaire pour les budgets militaires et non militaires, selon une égalité qui a réconcilié droite et gauche, mais les tractations sur l'allocation des plus de 1 000 milliards de dollars de 2018 a provoqué une myriade de conflits mêlant querelles idéologiques et intérêts locaux, que ce soit sur l'avortement, l'immigration ou le financement d'un nouveau tunnel ferroviaire à New York. La date butoir pour adopter le mastodonte qui est la loi de financement de l'État fédéral est vendredi à minuit.
Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme appellent la justice haïtienne à poursuivre les complices de la dictature duvaliériste. Dans un rapport publié hier, ces ONG rappellent que la mort de Jean-Claude Duvalier en octobre 2014 ne signait pas la fin de la procédure. Seules 7 des 17 personnes visées par les plaintes sont aujourd'hui encore en vie. Plus de 3 décennies après la fin de la dictature, plusieurs victimes de tortures et de détentions arbitraires qui avaient en détail témoigné de ces crimes lors des audiences tenues à Port-au-Prince en 2012 et 2013 sont également finalement décédé sans obtenir justice.
Facebook est au cœur d'une tourmente mondiale depuis que la société Cambridge Analytica a été accusée d'avoir illégalement acquis les données de 50 millions d'utilisateurs du réseau social. Cambridge Analytica a de son côté annoncé hier la suspension de son patron Alexander Nix, qui s'était vanté d'avoir œuvré pour la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Nous y reviendrons en fin d'émission.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
En condensé maintenant des nouvelles économiques, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Kigali accueille aujourd'hui un sommet extraordinaire de l'Union africaine pour lancer la zone de libre-échange continentale. Pas moins de 27 chefs d'État sont attendus dans la capitale rwandaise. Le spécialiste de l'Union africaine auprès de l'Open Society Institute West Africa, Ibrahima Kane, explique quelques avantages.
Cette zone de libre-échange va renforcer la position de l'Afrique dans le reste du monde, va aider à une réduction drastique de la pauvreté sur le continent. La sécurité alimentaire sera mieux assurée parce qu'il y aura des échanges de produits entre les pays africains. La compétitivité des produits industriels africains pourra être développé. C'est un des moyens essentiels de booster vraiment l'économie africaine qui en a tant besoin.
Le Zimbabwe a rapatrié 591 millions de dollars de fonds illégalement transférés sous l'ère Mugabe. Le président Emmerson Mnangagwa avait offert 3 mois d'amnistie en novembre dernier à toutes les structures et les personnes mises en cause pour rapatrier plus de 1,4 milliard de dollars. Après l'expiration de ces délais, les autorités ont publié une liste de plus de 1000 entreprises et individus qui n'ont pas répondu à cet ultimatum. Dans moins de 2 décennies, l'exploitation des robots dans l'industrie manufacturière en Afrique sera moins coûteuse que la main-d'œuvre humaine. Un centre de réflexion londonien estime que cette dynamique risque de provoquer un chômage de masse. En revanche, les pays les plus pauvres ne seront pas affectés. Ils disposent de moins de fonds à investir dans ce domaine de l'automatisation.
Comme à l'accoutumée, nous passons au billet sportif. Bonjour Nicolas Pineau.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Tirage au sort de la phase de poule de la Ligue africaine des champions tout à l'heure au Caire.
Et oui, cette phase de poule qui verra 5 pays africains représentés pour la première fois à ce niveau de la compétition. Il s'agit du Botswana avec les Township Rollers, de la Guinée avec le Oroya, l'Ouganda avec Kampala City Council Authority, le Kasisié, ou encore le Swaziland avec les Mbabane Swallows et surtout le Togo avec l'AS Togoport. Les 7 derniers vainqueurs de la Ligue des champions figurent aussi parmi les équipes qualifiées, le WAC Casablanca, tenant du trophée, les Mamelodi Sundowns, le tout-puissant Mazembe, Sétif, Al Ahly, l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel. Enfin, le Zesco United, le Primero de Agosto, Difa El Jadida et le MC Alger.
Réunion hier à Zurich pour sauver le football ivoirien en crise.
Les différents acteurs de la crise qui secouent le football ivoirien se sont retrouvés hier à Zurich sur invitation de la FIFA. Cette dernière souhaitait discuter des mesures à prendre pour surmonter la crise actuelle. Les délégations, celles de la Fédération ivoirienne de football et celles des dirigeants de clubs étaient représentés par 3 membres chacune. On rappelle, Jacques, que des clubs et plusieurs groupements d'intérêt avaient réclamé le 29 décembre dernier une assemblée générale extraordinaire pour demander le départ du président de la FIF, Augustin Sidi Diallo, à la suite de la non-qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2018.
Nouveau report du procès d'Issa Hayatou au Caire.
La Cour économique du Caire a reporté au 16 avril le procès d'Issa Hayatou et d'Hicham El Amrani. L'ex-président de la Confédération africaine de football et l'ancien secrétaire général sont accusés par la justice égyptienne d'avoir violé les règles locales de la concurrence en signant un contrat avec Lagardère Sport pour la gestion des droits marketing et médias du foot africain. Un contrat gigantesque, 1 milliard de dollars qui court jusqu'en 2028.
Matchs amicaux pour les équipes africaines.
Certaines équipes nationales du continent préparent la suite des éliminatoires pour la CAN 2019, tandis que l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie sont sur le pont en vue de la Coupe du Monde cet été en Russie. Ce mercredi, le Togo affronte Madagascar en match amical en France. Et puis demain, l'Algérie face à la Tanzanie à Alger, Burkina Faso, Guinée-Bissau en France, Zambie, Zimbabwe, Andola, toujours Andola, l'Afrique du Sud face à l'Angola, Thaïlande, Gabon à Bangkok ou encore Macao face à Maurice. Ce sera à Macao. Allez, Jacques, je vous laisse donner quelques résultats de NBA. Le championnat de basket nord-américain.
Les Raptors de Toronto ont vaincu le Magic d'Orlando 93-86. Ailleurs, Oklahoma City 99, Boston 100, Clippers 109, Minnesota 123, Dallas 105, la Nouvelle-Orléans 105, Atlanta 99, Utah 94 et Détroit 115, Phoenix 88.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Le Monde aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Alors, s'il faut le rappeler, nous sommes le mercredi 21 mars 2018. Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine. Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué du 16 septembre 2015 reprend aujourd'hui à Ouagadougou. Le Conseil constitutionnel a rejeté hier la requête des avocats de la défense qui dénonçait la nomination des juges du tribunal militaire par décret. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont parmi ceux poursuivis dans le cadre de ce putsch manqué. Pour faire le point, Yacouba Ouedraogo a joint Ousmane Paré, rédacteur en chef à Radio Omega.
Le problème a été réglé donc mardi dans l'après-midi par le Conseil constitutionnel. Donc cette décision, ça dit tout simplement qu'il n'appartient pas au Conseil supérieur de la magistrature de nommer des magistrats au niveau donc du tribunal militaire. Le tribunal militaire étant une juridiction d'exception.
Le procès reprend donc ce mercredi. Est-ce qu'il y a des chances que tout se passe normalement et qu'il n'y ait pas à nouveau un renvoi?
Ça reste toujours un procès. Donc chacune des deux parties vient avec des arguments et c'est pas le seul reproche qui était fait donc, pour la reprise du procès. Il y a même la dénomination du procès. Ça, c'est un aspect qui n'a pas définitivement été réglé. Parce qu'au niveau de la défense, on demande aussi de clarifier devant quelle juridiction les différents prévenus doivent comparaître. Parce qu'au niveau du décret de nomination donc, des membres du tribunal, la chambre en tout cas qui est désignée donc, au niveau du décret n'est pas celle devant laquelle les différents prévenus doivent comparaître. On attendra tout simplement de voir ce que la réponse qui sera donnée donc à l'ouverture du procès. En dehors de cela, donc, les avocats aussi disent qu'il y a des éléments qui jusqu'à présent n'ont pas été pris en compte, donc certaines de leurs revendications qui n'ont pas été prises en compte. Donc on attendra tout simplement de voir aussi bien au niveau de la défense ou de la partie civile, les exceptions qui pourraient une fois de plus être soulevées, qui pourraient d'une manière ou d'une autre aussi avoir un impact sur le bon déroulement du procès.
Les avocats des accusés disent qu'apparemment tout est mis en œuvre pour que leurs clients soient condamné. Quelle est l'impression des Ouagadougous là-dessus?
C'est une population qui est profondément divisée. De ce fait, il y en a qui disent clairement qu'on n'a pas besoin de tourner en rond. Il y a des gens qui ont assumé leur responsabilité dans le procès, donc il faut aller vite au procès et être jugé. Il y en a qui ne les écoutent même pas et disent de toute façon, les responsables sont connus, il faut leur infliger des sanctions qui seraient de plus lourdes, donc afin de satisfaire la population. Alors que du côté naturellement donc, de la défense, on peut dire attention, c'est vrai qu'il y en a qui ont porté la responsabilité donc, de ce qui est arrivé, mais il y a des gens aussi qui sont poursuivis et il reste aussi à déterminer leurs véritables implications dans le procès. Le général Diendéré, lui, il a reconnu les faits, mais certains de ses avocats aussi disent que non, il n'est pas forcément le seul. Lui, c'est vrai qu'il a assumé la responsabilité, mais ce sont des gens qui ont fait des coups d'état, qui sont venus le voir pour le mettre devant le fait accompli. Et lui aussi, il avait contacté d'autres personnes, donc vous voyez un peu la complexité de la situation.
On écoutait le journaliste Ousmane Paré de Radio Omega. Il était en ligne de Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Congo-Brazzaville, la commission mixte paritaire des accords de paix dans le Pool a annoncé hier, au cours d'une grande cérémonie à Kinkala, le début du désarmement des ex-combattants ninja du pasteur Ntumi à partir du 5 avril. 14 sites seront ouverts dans le Pool pour accueillir les ninjas et leurs armes. Sur place, le reportage du correspondant de VOA Afrique, Nguela Ngusu.
Les quelques ninjas présents au lancement des activités de terrain de la commission paritaire se disent prêts à rendre les armes et à faire la paix.
Donc là où nous parlons, la paix est déjà confirmée dans le pôle. Donc nous aussi, les ninjas, on peut aller à l'endroit où nous pouvons aller. Donc il n'y a pas de barrage, que ce soit militaire, que ce soit civil, que ce soit ninja. Et maintenant, il y a lâché partout.
Dans un message aux autorités, le pasteur Ntoumi demande le démantèlement des barrières sur les voies publiques afin de favoriser la circulation des personnes et des biens dans le pool. Son représentant personnel, Anne-Philippe Bibi, qui a transmis ce message, a indiqué que le pasteur Ntoumi s'était engagé à appliquer sa part de devoir dans les accords de paix.
La restauration de la libre circulation des personnes et des biens à travers le démantèlement des barrières informelles sur toutes les voies de communication où sont encore visibles le racket et quelques actes d'agression sur les populations. La réinstallation des populations et leur prise en charge multiforme au regard du sinistre très avancé et de la fantomatique image que présentent les villages.
Dans les villages du Poule, les populations n'espèrent plus qu'à reprendre rapidement leurs activités agro-pastorales. Nestor Ntsende de Kinkala.
On n'a pas accès à nos terres et ce qui est déjà acquis est détruit. Ben les plantations, les élevages sont détruits. On n'a plus rien. Les maisons détruites et tout ça. Maintenant, on se met à errer dans la ville de Kinkala sans rien, sans activité, c'est grave.
Je me présente, je suis le pasteur Dieu Merci Benza, président de la société civile du Poule. C'est un tableau apocalyptique sombre. Pourquoi je dis sombre? C'est parce que les maisons ont été détruites. Nous voulons que ce travail puisse aller de l'avant pour que les fruits de la paix soient effectifs dans le Poule. Car les populations du Poule n'attendent que cela, donc la paix durable dans ce département meurtri.
Dès mercredi matin, le transport des passagers est ouvert entre Brazzaville, Kinkala, Mindouli et Kindamba, tronçon fermé à la circulation depuis avril 2016. De retour de Kinkala, Nguela Ngoussou, VO Afrique.
Washington Forum braque les projecteurs sur le sommet de l'Union africaine. Les dirigeants africains se réunissent ce mercredi à Kigali, au Rwanda, pour signer l'accord cadre de la zone de libre-échange continentale, un projet ambitieux qui semble ne pas faire l'unanimité. Quel est l'enjeu de cet accord? Sera-t-il endossé par un grand nombre d'États africains? Comment tirer parti de la force des opérateurs économiques du continent pour favoriser l'intégration panafricaine? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin.
Cap sur la République centrafricaine où vient de prendre fin à Bangui, la capitale. Une rencontre de haut niveau sur le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance, parrainée par l'Organisation internationale de la francophonie. Le forum avait pour thème les relations entre le pouvoir exécutif et le législatif. La Centrafrique a connu le retour à l'ordre constitutionnel marqué par l'élection de Faustin Archange Touadéra à la tête du pays, mais cette réunion a eu lieu dans un contexte de tensions politiques sur fond d'accusations de coup d'État de Bangui. Le compte-rendu de cet événement avec notre correspondant Freeman Sipila.
La rencontre est dénommée retraite de haut niveau et a connu la participation des principaux cadres du pays, ministres, anciens ministres, chefs des institutions de l'État, mais aussi cadres de l'espace francophone. Faustin Archange Touadéra, président centrafricain.
L'histoire des nations comporte des épreuves et des événements parfois douloureux. Et la République centrafricaine n'en a pas été épargnée. Elle a traversé un moment sombre de son histoire, avec les douloureux événements qui ont suivi le coup d'État du 24 mars 2013 et qui ont mis à mal la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble et surtout le fonctionnement des institutions républicaines. Le choix du thème principal de cette retraite de haut niveau, stabilité institutionnelle et le redressement national, cadre bien avec ces défis qui s'opposent à notre pays, entre autres la restauration de l'autorité de l'État à travers des institutions nationales solides, stables et complémentaires.
Trois jours d'échange ont permis aux envoyés spéciaux de la francophonie de partager leurs expériences aux décideurs centrafricains. Le message clé, la cohésion entre les institutions de l'État et le respect des rôles. Désiré Kadra Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina Faso.
Les relations interinstitutionnelles doivent se dérouler à l'aune du respect mutuel des prérogatives de chaque institution.
mais aussi de la concertation et de l'information permanente. Le fait que les pouvoirs soient séparés et indépendants ne signifie pas qu'ils doivent être cloisonnés et qu'il ne doit pas y avoir de concertation entre eux. Cette concertation doit se faire de façon informelle et discrète. L'action d'une institution doit toujours être planifiée et se dérouler dans un organigramme qui évite les confusions des rôles et des responsabilités.
Dans son intervention, Louis Michel, ancien ministre de la Coopération de la Belgique, a insisté sur l'intérêt public.
C'est le président Bouteflika, il y a bien 15 ans maintenant, qui me disait, jeune ministre ou tout nouveau ministre, je lui parlais des droits humains en Algérie. Et il a eu cette phrase, un homme très cultivé, il a eu cette phrase qui m'a un peu sidéré, mais qui dans le fond est pleine de bon sens. Mon cher ami, c'est très bien de me parler des droits humains, mais je vais parler des droits humains à mon peuple et aux citoyens quand j'aurai réussi à leur faire manger à leur faim. Bon, je veux simplement dire par là qu'on peut évidemment tenir des discours de transparence, tous les beaux discours qu'on veut, et je suis évidemment un tenant de ça, mais il faut aussi simplement générer, garantir la survie minimale au peuple.
Cette rencontre de haut niveau devrait permettre la refondation des institutions centrafricaines et assurer une stabilité politique. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le Parlement européen a invité hier le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, à venir s'expliquer devant l'Assemblée sur le scandale provoqué par l'utilisation illégale de données personnelles de millions d'utilisateurs par une entreprise d'analyse de données, Cambridge Analytica. L'entreprise, liée à la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, est accusée d'avoir recueilli sans leur consentement les informations personnelles de millions d'usagers de Facebook. Pour un décryptage, Irénée Herman-Hungbo s'est entretenue avec Julie Obono. Elle est directrice de l'association Internet sans frontières à Paris. Nous l'écoutons.
Malheureusement, nous n'étions pas surpris à Internet sans frontières puisque nous faisons partie de ces organisations qui, depuis 2010-2011 maintenant, alertent sur les dangers potentiels de laisser une entreprise comme Facebook et comme bien d'autres, hein, Facebook n'est pas la seule, récolter autant de données personnelles et aussi précises sur des milliards aujourd'hui d'utilisateurs dans le monde. Et surtout, nous étions inquiets déjà depuis 2010 sur l'opacité qui règne autour de les méthodes de collecte de ces données personnelles.
Vous voulez dire que tous ceux qui ont leurs données personnelles sur la toile ne sont pas protégés, c'est ça?
A priori non, il y en a qui sont bien mieux lotis que d'autres, bien sûr, comme par exemple les utilisateurs de l'Union européenne, puisqu'il faut rappeler que l'Union européenne vient de se doter d'un règlement sur la protection des données personnelles, qui s'appelle le RGPD et qui va rentrer en vigueur dans tous les pays européens à partir du 25 mai 2018. Et donc ce règlement protège les utilisateurs européens puisqu'il impose à toute entreprise qui traite les données personnelles d'utilisateurs se trouvant dans l'Union européenne, il leur impose de mettre en place des paramètres qui, par défaut, protège la vie privée.
En Afrique, il y a des millions d'abonnés à Facebook, à Twitter, sans oublier les détenteurs d'une adresse électronique. Vous voulez dire qu'ils courent également le même risque?
Bien sûr, ils ne sont pas du tout protégés. Vous vous rappelez, en 2016, on a appris que les serveurs de la société Yahoo disposaient d'une porte dérobée qui donnait accès directement à la NSA aux données qui appartiennent à des utilisateurs, aux milliards, c'était des milliards de comptes détenus par Yahoo. Beaucoup d'Africains, y compris même des dignitaires, utilisent des adresses e-mail en yahoo.fr ou .com. Donc aujourd'hui, ces utilisateurs-là ne savent même pas ce qui est vraiment advenu de leurs données personnelles. On sait juste que la NSA y a accédé, mais est-ce que ça veut dire que demain, quand certains se rendront aux États-Unis, on pourra leur mettre face à eux certaines des données qui auraient été récoltées de manière illégale, finalement, dans les serveurs de Yahoo? Ça, c'est une question qu'on peut poser.
À votre avis, comment remédier à cette situation et protéger véritablement les données personnelles des utilisateurs d'Internet, des réseaux sociaux d'une façon générale?
Il faut adopter des régulations. Je citais tout à l'heure le règlement général de l'Union européenne qui est un cas d'école très intéressant. C'est un bon début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais inciter les plateformes comme Facebook à ne pas collecter données personnelles par défaut et ne le faire que lorsque l'utilisateur donne son consentement express, c'est un début.
Julie Obono, directrice de l'association Internet sans frontières, jointe à Paris.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique. Comme d'habitude, notre sujet de cette semaine, comment les hommes montrent-ils leur amour? Je répète, comment les hommes montrent-ils leur amour? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 3731 ou au 001 703 350 3731 ou contactez-moi sur ma page Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001 202 619 3140, 001 202 619 3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel, c'est sur VO Afrique. Peace Africa.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde Aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde, Anne qui était également avec nous pour la présentation du journal. C'était John Ellison à la console. Merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin encore une fois. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente journée sur VOA Afrique. Take care.